Le 8 mai 2025 restera dans l'histoire comme le jour où les cardinaux ont élu le 267e pape de l'Église catholique. Nous sommes avec notre évêque, Mgr Marc Haillet. Alors, où étiez-vous quand vous avez appris l'annonce de l'élection du nouveau pape ?
Dès que j'ai su que la fumée blanche sortait de la cheminée de la chapelle Sixtine, je me suis précipité devant la télévision, tout simplement.
Comme beaucoup de monde.
Comme beaucoup de monde. Et j'ai vu, en effet, que la foule commençait à se rassembler extrêmement dense et nombreuse sur la place Saint-Pierre, sur la place Pie XII et sur l'avenue de la Conciliation. Et tout le monde attendait de main fébrile, mais alors, qui est ce nouveau pape qui a été élu si rapidement, il faut le dire, parce que, comme sans doute les deux derniers conclaves, les cardinaux se sont vite rassemblés sur le nom de celui qui a été l'heureux élu, si je puis dire, même s'il a remercié aujourd'hui en anglais, qui est sa langue maternelle, les cardinaux de lui avoir mis sur le dos cette croix. Donc j'étais devant la télévision et j'ai vu que beaucoup de chaînes de télévision étaient braquées sur Rome. Il y avait évidemment KTO, mais il y avait aussi LCI, il y avait BFM TV, il y avait CNews. Donc on avait l'embarras du choix pour pouvoir suivre en direct cet événement forcément historique, et en particulier pour l'Église.
Alors après la surprise du lundi de Pâques, le décès du pape François, là c'est la surprise du 8 mai. On s'attendait à ce que ce soit un peu plus long, comme vous l'avez dit, ça a été très rapide.
Oui.
Et puis ce pape, il n'était pas forcément en haut de la liste des papabilés.
Voilà, il faisait partie des papabilés comme pas mal, dont le patriarche latin de Jérusalem, Pizzabella, dont le cardinal Aveline, d'après ce qu'on entendait dire, mais il n'était pas dans les favoris. Et de fait, moi j'étais surpris, comme beaucoup de monde, ce qui montre bien quand même que, selon le dicton, celui qui rentre pape au conclave en sort cardinal, et que les pronostics humains, qu'ils soient ceux à l'intérieur de l'Église comme ceux des journalistes, eh bien, sont toujours déjoués, sans doute par l'Esprit Saint. Je rappelle que c'est dans un contexte de prière liturgique que finalement les cardinaux sont appelés à élire le pape. Comme au Cénacle de la Pentecôte, c'est la prière qui crée l'unité et qui appelle l'effusion de l'Esprit-Saint. Et donc je pense que, comme cela a été souligné, même si on pouvait penser que les congrégations générales s'étaient passées avec d'âpres discussions, peut-être même un certain nombre de divisions et d'oppositions avaient pu s'exprimer au sein du Collège cardinalis, là on voit qu'il y a une sorte d'unanimité, qui vient sans doute de cette prière d'un seul cœur et d'une seule âme, du peuple chrétien aussi, qui a beaucoup prié pour les cardinaux pendant les jours qui ont précédé le conclave, et l'Esprit-Saint a permis que ce consensus s'établisse assez rapidement sur cette personne que le Seigneur nous donne dans sa providence pour être le successeur de Pierre.
Avant de parler de la personne du pape, un mot quand même sur la couverture médiatique du conclave, bon, déjà de l'enterrement du pape François, mais ensuite du conclave. Finalement, on dit que l'Église est en perte de vitesse, mais elle intéresse quand même beaucoup.
L'Église intéresse tout le monde. C'est vrai que c'est la seule institution qui a un tel caractère universel et international, il faut le dire. 1,4 milliard de catholiques, sans compter les orthodoxes et les protestants, ce qui est quand même énorme. Et en plus, qui ont une vraie unité, puisqu'ils ont une tête. C'est le Christ sans doute, mais c'est le vicaire du Christ qui est le pape, le successeur de Pierre.
Alors c'est Robert Francis Prévost qui a été élu 267e pape de l'Église catholique. Est-ce que vous le connaissez ?
Alors moi je le connais un tout petit peu, puisque comme il était le préfet du dicastère des évêques, il est bien évident qu'on a forcément un lien, au moins lointain, avec celui qui est à la tête du dicastère. Pour tout vous dire même, j'avais pris l'initiative de le rencontrer à la fin de l'année dernière, et il m'a donné rendez-vous tout de suite, et j'ai pu parler avec lui de manière très simple, et j'ai apprécié la qualité de son accueil, sa bienveillance, et la qualité de son écoute. Donc voilà ce que j'en sais. Mais bon, comme beaucoup d'autres qui l'ont approché, j'ai été frappé par sa bonté, et puis sa simplicité, son humilité, d'ailleurs qui a transparu hier dans les premières images que nous avons eues de son apparition à la loggia de Saint-Pierre.
Si je ne me trompe pas, Mgr Haillet, le nouveau pape a un an de plus que vous. Il est né en 1955 à Chicago. C'est donc un Américain. Ça aussi, c'est une nouveauté.
Oui, Américain du Nord. Donc c'est le premier, évidemment, pape de l'Amérique du Nord, ce qui peut être assez surprenant dans les tensions qui peuvent exister entre les États-Unis, en tout cas le gouvernement des États-Unis, et l'Église en ce moment. Mais je pense que les cardinaux n'ont pas regardé la nationalité. C'est un Américain, mais un immigré en Amérique, puisque par son grand-père paternel, il est d'origine française et italienne. Par sa grand-mère maternelle, il est de son grand-père maternel, il est d'origine espagnole, nationalité américaine, mais il a été en tant qu'augustinien, donc religieux augustinien, missionnaire, essentiellement au Pérou, où il a passé 20 ans de sa vie quand même. Il est revenu à Chicago pour être deux mandats successifs supérieur général élu des augustiniens. Et puis il a terminé évêque de Chiclayo, un petit diocèse du Pérou. C'est là que le pape François est venu le chercher en 2023 pour en faire le préfet du dicastère des évêques, pour qu'il ait un peu l'expérience de la curie. Et créé cardinal dans la foulée. Donc il est à la fois un nouveau venu dans la curie et dans le collège cardinalis, un canoniste, mais un homme de terrain, un pasteur, un missionnaire. Donc peut-être que tous les éléments de synthèse étaient réunis pour que son nom finisse par s'imposer au collège des cardinaux.
Sa devise invite à l'unité de l'Église.
Oui, « in illo uno unum », qui est une formule de saint Augustin qui commente un psaume, je crois que c'est le psaume 127, et qui veut dire bien que dans celui qui est un, c'est-à-dire dans le Christ, eh bien nous sommes appelés à être un. Donc je pense que c'est aussi un appel à l'unité, et il y a un beau signe du fait qu'il ait pu rassembler sur son nom des cardinaux aussi différents, parfois opposés, est un bon signe d'une tonalité d'unité qui sera donnée à son pontificat.
Alors, il y a bien sûr le nom qu'il s'est donné, Léon XIV.
Était très étonnés. Hein.
Voilà,
c'est vrai
ça va
que...
faire plaisir aux Bayonnais, c'est sûr.
Ça, c'est un petit brin d'humour. C'est vrai que Léon est un nom qui résonne bien à Bayonne, non seulement le roi Léon des fêtes de Bayonne, mais aussi Saint Léon, l'évêque fondateur martyr de notre église de Bayonne au IXe siècle. Bon, c'est vrai que c'est étonnant. On aurait pu penser qu'il serait appelé François II, dont il était forcément proche de son prédécesseur. Il aurait pu prendre aussi Jean-Paul III, enfin qu'importe. Il a choisi, un peu comme Benoît XVI qui était parti un peu plus loin dans la lignée, en tout cas il s'est inscrit dans une lignée. C'est ça qui me semble assez significatif, outre le fait du nom de Léon sur lequel on va dire un mot, mais il s'est établi dans une lignée qui le précède. C'est pas un commencement absolu pour lui. Il est dans la lignée et dans la continuité de ses prédécesseurs, nécessairement, y compris de son immédiat prédécesseur, mais il n'est pas le successeur de François, comme François n'était pas le successeur de Benoît. Les évêques, les papes se succèdent les uns aux autres, mais en tant qu'ils sont successeurs de Pierre. Il a d'ailleurs beaucoup insisté ce matin dans son homélie de la chapelle Sixtine sur cet aspect. Alors Léon, c'est d'abord Saint Léon le Grand. Saint Léon le Grand, c'est un pape du 5e siècle, qui a été très influent pour la définition au concile de Chalcédoine en 451 de la divinité du Christ, qui a une nature humaine et une nature divine, qui sont unies, sans confusion et sans séparation, dans l'unique personne du Fils de Dieu. D'ailleurs, ce matin, j'ai trouvé qu'il était parfaitement dans cet héritage de Saint Léon le Grand, puisque toute son homélie a consisté à commenter la profession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », en disant que c'est le patrimoine bimillénaire de l'Église qui lui était confié et qu'il devait annoncer avec toute l'Église au monde d'aujourd'hui. Mais c'est aussi plus proche de nous Léon XIII, dont il devient l'immédiat successeur, au moins par le nom, Léon XIV. Léon XIII, c'est l'initiateur de la doctrine sociale de l'Église par une encyclique retentissante à la fin du XIXe siècle, siècle de la Révolution industrielle, Rerum Novarum, sur la question ouvrière, où il condamne tout à la fois le capitalisme sauvage, qui est encore bien présent dans notre monde d'aujourd'hui, et le socialisme marxiste, en disant que c'est un remède pire que le mal, et qui est centré sur la personne de l'ouvrier. Donc la question sociale qui va traverser depuis Rerum Novarum, en passant par les papes successifs jusqu'à Jean-Paul II, Centesimus Annus, pour le 100e anniversaire de Rerum Novarum, Caritas in Veritate pour Benoît XVI, et puis Fratelli Tutti du pape François, eh bien on voit que tout l'enseignement social de l'Église est centré sur la personne, sa dignité, inviolable, comme il a rappelé d'ailleurs aussi ce matin dans son homélie de la chapelle Sixtine.
Avec Rerum Novarum, le pape Léon XIII ne s'est pas fait que des amis.
Mais certainement pas, il s'est fait beaucoup d'ennemis aussi, bien entendu, Et donc, il faut s'attendre aussi à ce que le pape ne soit pas, ne fasse pas l'unanimité dans le monde. Hein, et que, une chose aussi que je me permets de souligner, c'est que le pape, hier, Léon XIV, dans sa première allocution très émouvante, hein, que nous avons suivie avec beaucoup d'attention tous, il a dit à un moment, le mal ne prévaudra pas. Et il faut se rappeler que Léon XIII est le pape du petit exorcisme dit de Léon XIII, c'est-à-dire cette prière qu'il a composée à Saint-Michel-Archange pour défendre l'Église contre les attaques du démon qu'il avait d'ailleurs entrevu dans une vision, qu'il avait d'ailleurs un peu terrorisé. Et je pense que tout ça n'est pas complètement anodin. Dans le combat spirituel que l'Église a mené aujourd'hui contre le mal, et derrière les mots de notre temps, il y a aussi celui qui incarne le mal, et le mal ne prévaudra pas. C'est aussi un rappel de Saint-Michel-Archange qui est vainqueur du mal. On se rappelle aussi que le pape François avait consacré le Vatican à Saint-Michel-Archange et qu'hier, 8 mai, eh bien, nous faisions mémoire de la première apparition de Saint-Michel-Archange au mont Galgano en Italie.
Merci beaucoup, Monseigneur Haillé, de nous avoir donné votre première impression à chaud, on va dire, de l'élection du nouveau pape Léon XIV. Léon XIV, alors je ne sais pas comment on dit exactement, avant on disait le couronnement du pape.
Mais... alors ce sera l'intronisation.
L'intronisation.
Ah, il inaugurera officiellement son ministère pétrinien sur la place Saint-Pierre, je crois, le dimanche 18 mai.
Le 18 mai, tout
voilà.
à fait.
Et en tout cas, je suis heureux de partager la joie du peuple chrétien qui était tellement palpable hier sur la place Saint-Pierre. La vitalité de l'Église, la jeunesse de l'Église, la joie hein, des fidèles en accueillant ce nouveau pape. Heureux de pouvoir prononcer son nom maintenant dans la prière eucharistique après en avoir été privé depuis la mort du pape François le 21 avril dernier. Et heureux de confier à notre diocèse de Bayonne bien, à sa prière le nouveau pape qui nous a été donné.
Et prions pour le 267e successeur de Pierre, parce qu'il aura quand même du travail.
Oui, c'est une lourde charge qui lui tombe sur les épaules.
Merci beaucoup, Monseigneur.
Merci.
Haillé.